Radio Déclic.
Encourager la fraternité. C'est pas quelque chose qu'on peut vivre chaque jour.
Radio Déclic. Radio Déclic.
Radio Déclic. On aime découvrir d'autres cultures.
Ce sont des messages qu'on fait passer.
A place for you. Fréquence Paris Pluriel 106.3.
Eh bien, bonsoir à tous. C'est l'heure de Radio Déclic sur les ondes de FPP 106.3. C'est la rentrée pour nous, puisque voilà, avec de nouveaux sujets. Et puis, alors, on va dire, c'est pas la vraie rentrée, parce que tout le monde n'est pas encore là. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a CZ. Salut CZ.
Salut Florence. Salut Senzo à la technique. Salut les auditeurs. Et puis, salut personne autour de la table.
Voilà, les fantômes, les chanceux, en tout cas, qui sont encore en vacances. Enfin, pour certains, parce qu'il y en a d'autres. Mehdi. On retrouvera quand même la voix de Mehdi. Mais Mehdi est voilà, sur le front parce que vous savez, il y a des mouvements, sujet de contestation au lycée Sugère, hein, puisque le prof a été carrément muté comme ça. Hein, c'est celui qui avait créé en fait cette option BTS audiovisuel. Donc de toute manière, il va nous rapporter des reportages. Mais pour aujourd'hui, il nous a fait un petit reportage sur le jardin Aguet et sur l'association Médiation Nomade. Donc ça, c'est pour tout à l'heure. Et puis, il y aura la présence de Georges. Alors, une présence, on va dire, un peu virtuelle, hein, puisqu'on vous diffusera un de ses sujets, donc un grand homme ou une grande femme qui a fait l'histoire de France. Et puis, je vous parlerai, voilà, le sujet un petit peu, on va dire, délicat, terrible, hein, parce que je vous parlerai de Irma. Voilà, qui a dévasté les Antilles, notamment Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et puis José est arrivé aussi après. Donc voilà, je vous lirai quelques petits papiers, notamment d'un géologue. Voilà, on écoutera quelques témoignages alors, qu'on retrouve aussi sur le net de gens de Saint-Martin, hein, directement. Donc voilà, CZ.
Oui, et justement au sujet de donc, pas Saint-Martin mais Saint-Barthélemy. Enfin, il y a en tout cas Johnny Hallyday et Laetitia qui ont fait un très beau geste parce que leur maison a été un tout petit peu touchée, mais en tout cas, en grande partie, leur maison n'a rien eu et donc ils ont ouvert leurs portes à tous ceux qui n'avaient plus de maison.
Voilà, en tout cas, c'est quand même la moindre des choses. Voilà, et puis évidemment, de la musique, une sélection de notre technicien Senzo. Et puis, on retrouvera une de ces rubriques high-tech alors je ne sais pas si ce sera Molotov ou Shazam. En tout cas, on va commencer avec un lot de pépites de CZ. C'est l'heure des pépites de CZ. Alors CZ, encore plein de pépites.
Et oui, pour cette année, je vous ai encore concocté plein de petites choses. Donc on y va, on va partir à la gare de Lille-Flandre. On est le mercredi 6 septembre et il est 7h15. Et un individu au comportement étrange a été repéré par le personnel de la gare. L'homme a commencé à se promener sur les quais avant de se déshabiller et s'est mis à courir partout sur les voies. Donc aussitôt, la circulation des trains a été interrompue et le courant a été coupé pour des raisons de sécurité pendant environ 3 quarts d'heure. Le nudiste a fait tourner en bourrique les agents de la SUGE, donc la SUGE, hein, c'est la police ferroviaire, retardant des dizaines de trains et bloquant des milliers de passagers. L'incident a été clos vers 8 heures et le trafic des trains a repris progressivement. Sur le sort du perturbateur, les versions divergent. À la SNCF, on assure qu'il a été interpellé. Côté police, on ne confirme pas la nudité du mis en cause. Des fonctionnaires de police ont été envoyés pour interpeller cet individu qui, à leur vue, a pris la fuite, explique une source policière. Précisant qu'un sac avec du matériel de toxicomane et une pièce d'identité a été retrouvé à l'endroit où l'individu avait été repéré, c'est vers 9h45 que le perturbateur a été reconnu par les agents alors qu'il était retourné dans la gare. Il a été arrêté et placé en garde à vue.
Alors tout dur en garde à vue ou puisqu'il faut déjà enlever ses lacets, etc.
Là, je pense que oui.
L'histoire ne le dit pas.
Non.
Une deuxième pépite ?
Oui. Alors là, on va faire un petit tour dans le football amateur. Et ce n'est pas des après-matchs festifs ou des terrains en mauvais état. C'est parfois aussi des interruptions improbables de matchs. Dimanche 3 septembre, dans les Hautes-Pyrénées, la rencontre entre l'équipe 3 de Juillan et le Tarbes FC a été arrêtée peu après l'heure de jeu. La raison ? Une voisine du terrain énervée s'est installée sur la pelouse avec sa chaise pliante et a refusé d'en partir. Alors, venue avec un livre et son téléphone, elle n'a pas cédé aux demandes des dirigeants du club, n'a pas fléchi devant l'arrivée des gendarmes et n'a pas fui malgré le déclenchement de l'arrosage automatique.
Oui.
Elle serait en conflit avec les footballeurs de Juillan à cause d'un passage entre les grilles du stade et sa maison et ne supporterait pas l'entrée accidentelle de ballons dans sa propriété. Justement, les ballons, parlons-en. Elle les crève.
Ah
ouais. Où elle réclame 3 ou 4 euros par balle, car elle considère que c'est du travail de les renvoyer.
Ah bah oui, ça demande un effort physique. Hein.
Oui, parce qu'il faut lancer.
Il faut lever le bras.
Voilà. Donc on ne sait jamais, puis elle peut se faire une tendinite, luxation, tendinite, tout ça. Enfin voilà. Donc sa détermination a obligé l'arbitre, bien sûr, à suivre le règlement et à arrêter définitivement la rencontre après 45 minutes d'interruption. Malheureusement pour elle, le match pourrait être rejoué. Et en entier.
Bon, alors ça veut dire que c'est des mauvais joueurs quand même, parce que pour qu'à chaque fois que le ballon atterrisse chez elle, ils sont peut-être pas doués.
Moi, j'en ferais un terrain de rugby au moins comme
oui,
ça, la balle, elle
voilà.
va très haut. Et voilà.
Bon, en tout cas, on peut dire que cette dame, à défaut de lever le coude, doit lever le bras.
Voilà.
Allez, une dernière pépite pour l'instant.
Et oui, la mairie de Paris souhaite participer à une vision ouverte de l'utilisation des espaces publics parisiens. Pour ce faire, elle met en place depuis le jeudi 31 août un espace pour les naturistes au cœur du bois de Vincennes, dans le 12e arrondissement, et jusqu'au 15 octobre. Parce qu'après, ils auront un peu froid.
Oui, ça caille.
Et donc, les adeptes de cette pratique pourront bénéficier d'une clairière de 7300 m² située près de la réserve ornithologique du bois de Vincennes. Donc, c'est...
Bon, coucou aux oiseaux.
Les oiseaux vont pouvoir se rincer l'œil. L'espace qui se veut être une expérience gratuite sera encadré par des panneaux de signalisation et ouvert tous les jours de 8h à 19h30. Cette décision résulte d'une proposition du groupe Europe Écologie Les Verts, votée par le Conseil de Paris en septembre 2016. Elle sera encadrée par certaines règles, bien sûr. La nudité et la tranquillité des usagers de l'espace naturiste et des promeneurs devront être respectées et aucune attitude de voyeurisme ou d'exhibitionniste ne sera tolérée. Une charte est affiché autour de l'espace pour que les promeneurs et les joggeurs soient prévenus.
D'accord. En tout cas, on ne dit pas ce qu'il y aura sur cette affiche. Hein. Ici, c'est à poil, par exemple.
Oui, je pense.
J'ai vu des gens tendre les bras et leurs deux doigts levés. Leur majeur et leur index toujours en forme de V. J'ai donc demandé ce que ce symbole pouvait signifier. Eh bien personne ou grand personne n'a pu me l'expliquer. Serait-ce un signe de paix ou bien levé de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait? Qu'est-ce que j'en sais moi? Qu'est-ce que j'en sais moi? Serait-ce un signe de paix ou bien levé de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait? Serait-ce un signe de paix ou bien levé de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait?
Stromae avec le titre Peace or Violence.
Radio Déclic 106.3.
Fréquence Paris Pluriel.
Bonsoir Florence, bonsoir à tous. Et oui, pour Radio Déclic, je me suis rendu à la rentrée du jardin Guette de Saint-Denis et j'y ai rencontré Geneviève, qui est la vice-présidente de l'association qui prend en charge ce petit coin de nature dans la ville. On l'écoute, elle nous fait une petite visite guidée.
Oui.
Bah, allons-y.
Alors on y va, oui. Donc voilà, c'est le jardin partagé, le jardin des habitants, le jardin à Guette. Depuis un an, on est sur la passerelle et on a conçu un jardin partagé pour les habitants, avec les habitants, avec trois pôles en fait. Il y a des plantations potagères qui maintenant donnent bien. Au départ, qu'on a fait. qu'on a planté dans des bacs, qu'on a nous-mêmes construits et fabriqués avec du matériel de récup, hein, des palettes en bois. On a habillé tous les murs de fleurs, de végétaux. Comme on veut aussi que ce soit vraiment un lieu de rencontre et d'échange, on a conçu un coin événement où on se retrouve pour se détendre, etc. Oui, toujours avec du matériau de palette et où aussi on y fait des événements culturels. En juin, il y a eu un concert, là, il va y avoir la projection d'un film, on a fait une expo photo, on fait régulièrement des apéros, on fait des pique-niques, c'est convivial, mais en même temps, on y donne une dimension culturelle. Et là, dès fin septembre, avec un instituteur avec les enfants du quartier et une école maternelle du quartier, on va démarrer le coin qui sera le jardin des enfants, qui sera aussi conçu et réalisé par les enfants du quartier et investi par les enfants.
D'accord.
Voilà. Donc voilà le jardin à guettes, qui est le jardin des habitants pour lequel une association est très imbiquée, mais on ne fait pas de l'entre-soi, au contraire, on ouvre à tout le monde et on fait des choses ensemble.
Super.
J'ai des rides et des poches sous les yeux, les cheveux poivre et sel et de l'arthrose m'en veut. À chaque check-up, ça ne va pas mieux. J'ai la carte vermeille et la retraite, je suis vieux. Les blouses blanches, analyse ma pisse, teste ma prostate, me parle d'hospice. Les gosses dans le bus me cèdent leur place. Et quand je me casse, ils parlent en verlan, style te malieux. Si les mots sont pioches, c'est ma tombe qu'ils creusent. Mais je dois rester droit malgré mon dos. Ma scoliose et salaud de l'imbago, j'étais une sommité. La qualité, j'ai bien travaillé, j'étais respecté. De juvénile à pré-retraité, je n'ai pas profité, ma vie j'ai raté. Maintenant quoi, tu veux que je fasse du jogging, attraper les années avec du bodybuilding, mettre de l'antiride à la graisse porcine, passe clean avec peeling et lifting, ça sonne faux. Je veux le feu, la forme, déformer le monde monotone et morne. Comme chaque printemps me pousse vers l'automne. Vers le sonotone. Appeler les forces des ténèbres, dévertébrer le verbe de toutes mes lèvres. Pour devenir celui qui gambadait dans l'herbe, je lève la main gauche et déclare avec verve être prêt. Pour la face ou l'envers, pacte avec Dieu ou pacte avec l'enfer. Je veux l'élixir, la luxure, le luxe d'être permanent comme le clan Clu-Clux. Toi, viens à moi, tu deviendras explosif comme l'Etna. Agenouille-toi et regarde vers le bas.
Agenouille-toi et regarde vers le bas.
Vers le sonotone. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens revivre de vieux papillons. Je passe à chrysalide, j'étais impotent. Maintenant ma pose tend comme à 20 ans. J'ai avalé le printemps jeune, fun. Je brille comme un gun neuf. J'ai du sang neuf. Je veux 1000 meufs, plus 1000 potes de banque en KL buff. Le tout si possible arrosé de 1000 teufs. Car tout est vicié, cercle vicieux. La balle à vessie, ici la calvitie. À toi merci, j'ai des preuves de ton œuvre. La jeunesse éternelle pour réécrire mon œuvre. Résurrection, retour de l'érection, de l'action. Quand avant c'était fiction, retour de la libido. Des nuits brèves, des alibis bidons pour réécrire. Le rêve, elle, belle, citadelle assiégée par une armée rebelle. Moi, en émoi, escaladant la pierre pour finir dans ses bras. Je peux le faire, j'ai le feu, la forme, transforme un monde monotone et morne. Avaler le printemps, recracher l'automne, parce que rien ne se perd et tout se transforme. Parce que rien ne se perd et tout se transforme.
Vers le sonotone.
Et non, vous n'avez pas rêvé, c'est bien MC Solar qui est de retour avec son dernier single intitulé Sonotone.
J'aurais voulu te dire que je m'en vais.
Que je m'en vais. Radio Déclic. 106.3.
Le son du monde.
Ouais.
La mer des Caraïbes et ses plages de sable blanc attirent depuis des décennies nombre de touristes qui fuient la grisaille hivernale du vieux continent. Pour pallier à la demande en hébergement, de nombreux investisseurs ont établi leur quartier dans ces îles paradisiaques et y ont construit toutes sortes de bâtiments, allant de simples résidences particulières aux immenses complexes hôteliers pouvant accueillir des centaines de clients. Bien souvent, ces derniers ont pris la place des mangroves et autres forêts littorales et les quantités astronomiques de polluants, produits phytosanitaires, les eaux usagées et j'en passe, rejetées dans les eaux côtières ont gravement endommagé les récifs coralliens. Or, ces deux écosystèmes, aussi fragiles qu'absolument nécessaires au maintien de l'équilibre de la biodiversité des Caraïbes, jouent également un rôle non négligeable de défense de la frange côtière face aux divers assauts de la mer. Ce sont de véritables barrières qui, si elles ne les stoppent pas, réduisent l'impact des submersions marines, notamment en termes d'atténuation des courants lors d'épisodes de fortes houles, de surcôtes, de tempêtes ou encore de tsunamis. Les récifs coralliens positionnés à distance de la côte cassent les vagues et réfléchissent une partie de l'énergie incidente vers le large, tandis que les mangroves, enchevêtrement de palétuviens, fortement des murs de végétaux qui freinent l'avancée de la mer et réduisent les courants qui parviennent à la côte. Malheureusement, on constate une très nette régression de ces écosystèmes durant les dernières décennies. Les récifs coralliens sont de plus en plus détériorés par les activités humaines, surpêche, piétinement, crème solaire, ouverture dans les récifs. Et le réchauffement climatique global et les mangroves ont la réputation de zones insalubres, perdures, sont déforestées, au profit de diverses activités économiques, l'agriculture, construction de zones industrielles, décharges. En 2001, l'UNEP, Programme pour l'environnement des Nations Unies, estimait à pas moins de 40% la population des Caraïbes qui vivait sur le littoral à moins de 2 km de la mer, donc dans une bande de terre potentiellement inondable. Ces 15 dernières années n'ont pas vu un ralentissement quelconque de l'artificialisation du littoral et des flux migratoires vers les côtes. Les îles françaises des Antilles ne sont pas épargnées par cette atropisation croissante du littoral, bien au contraire. On se trouve donc face à un premier constat. De plus en plus de monde et d'infrastructures en bord de mer et de moins en moins de protection naturelle, préalablement exercées par les mangroves et récifs coralliens. Et la bétonisation du littoral, construction de digues, de jetées, s'est depuis longtemps avérée être une hérésie qui, à part enrichir quelques entreprises de BTP, entraîne la modification de la dynamique littorale et ne fait que transporter un problème d'un point à l'autre. Et pourtant, mis à part des projets aussi disparates que limités dans l'espace et le temps, fermes à coraux, plantations de palétuviers, zones de réserve, il n'y a pas une réelle volonté des acteurs politiques de cette région caraïbe de protéger et même restaurer ces écosystèmes, malgré l'énorme bénéfice économique qu'ils pourraient en dégager. Écotourisme, meilleure gestion de la pêche. Au contraire, on voit ça et là de nouvelles atteintes à leur état d'ores et déjà précaire, comme par exemple la destruction des coraux dans le grand cul-de-sac marin en Guadeloupe en 2015 pour faire venir des bateaux toujours plus gros. La destruction d'un platier corallien, la Grande Sèche, en baie de Fort-de-France, pour faire du remblai pour l'extension du port. Depuis 2014, la destruction anarchique de la mangrove de baie Mao sur le site de Jarry en Guadeloupe, pour y implanter toujours plus d'entreprises. L'installation de complexes hôteliers sur les plages de Saint-Martin et des îles Vierges. La liste est malheureusement longue et les conséquences suite à un potentiel événement climatique, cyclone, forte houle ou géologique, tsunami non bénigne. La région Caraïbe a été historiquement touchée par un certain nombre de tempêtes tropicales, parmi lesquelles des événements cycloniques catastrophiques comme Hugo en 89, Louis en 95, Lenny en 99, ou plus récemment Dean en 2007, Omar en 2008 et maintenant Irma en 2017. Ces différents événements n'étaient pas prévisibles à long terme et ne le seront vraisemblablement jamais. Et le calcul de leur trajectoire restera probablement un défi pour les météorologues encore un bon moment. Néanmoins, ils ont permis au fil du temps aux gouvernements de la plupart des pays de la Caraïbe d'élaborer des stratégies de mise en sauvegarde des populations avec la construction d'abris, la réalisation de plans communaux de sauvegarde ou encore la réalisation de schémas d'évacuation basés sur des résultats de simulations numériques. Mais même si on ne peut pas agir directement sur la tempête elle-même, à part peut-être en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre de manière drastique, on ne propose nulle part des plans d'action réellement efficaces pour réduire les conséquences de ce que l'on appellera, les phénomènes associés. Une tempête génère du vent, des vagues et des fortes pluies qui peuvent à leur tour générer les glissements de terrain, submersion marine, effondrement de bâtiments, etc. Il s'agirait donc de faire en sorte que ces événements induits n'aient pas à leur tour des conséquences sur les vies humaines. Si la densité de la population en zone littorale est réduite, on réduit les risques de submersion marine. Si les bâtiments sont moins hauts, on réduit les risques d'effondrement. Si les zones d'habitation sont localisées sur des sols stables, on réduit les risques de glissement de terrain. En effet, une île comme Haïti a montré que la déforestation intense et les constructions anarchiques à flanc de collines peuvent mener à des situations extrêmement dangereuses, notamment lors de fortes pluies qui entraînent parfois des glissements de terrain dramatiques, emportant de nombreuses habitations sur leur passage. De la même façon, on se rend compte que pour pallier à la demande toujours plus importante en logement, les habitudes de construction traditionnelles, et notamment la maison créole de plein pied, se sont perdues dans le temps pour favoriser la construction de bâtiments à grande capacité d'accueil sur plusieurs étages, bien souvent élaborés avec des matériaux de mauvaise qualité. Enfin, pour y revenir, les écosystèmes côtiers ont été endommagés, sinon détruits, et ne jouent plus leur rôle de défense face aux humeurs de la mer. La bibliographie très riche sur le sujet présente des études réalisées un peu partout dans le monde qui montrent que ces écosystèmes, bien qu'incapables d'arrêter à 100% une submersion marine, permettent d'en réduire fortement les conséquences. L'ouragan Irma, de par sa durée et sa puissance, la plus intense jamais enregistrée dans la région Caraïbe, pourrait dans toute son horreur peut-être vu comme un signe envoyé aux décideurs pour prendre enfin des mesures concrètes et sur le long terme concernant la gestion intelligente de l'environnement et l'artificialisation des territoires de la Caraïbe pour mettre un frein à la bétonisation du littoral et enfin pour restaurer les écosystèmes que sont les mangroves et les récifs coralliens nécessaires à la vie locale et donc bien entendu à la protection des populations côtières. Voilà, c'était un article du docteur Jean Roger, c'est un géophysicien marin, qui date du 7 septembre 2017. Alors Irma a fait beaucoup de dégâts, notamment sur l'île de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Alors, la médiatisation de cet événement reste un peu douteux. Attention à la mauvaise information de certains médias. Moi, je vous propose d'écouter voilà, quelques réactions d'habitants de Saint-Martin. On écoute.
T'as un bébé, t'as ta femme, t'as un autre enfant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Ça fait 4 jours qu'on est sans eau, sans électricité, il n'y a pas de toit, toutes tes affaires sont mouillées. Ton bébé, il a 2 mois, il faut qu'il se lave, il fait putain de chaud, il attrape des boutons. Et là, regarde. Il y a un autre cyclone, il te donne 3 bouteilles d'eau. Et en plus de ça, il te dit, restez chez vous.
Vous pouvez y aller, s'il vous plaît.
Comment tu veux faire? Et après, il se plaint que les gens, ils braquent et ils pillent les autres. C'est normal que les gens, ils braquent et ils pillent les autres. Puisqu'il me donne 3 bouteilles d'eau pour survivre un cyclone à fucking 4. Il y a l'hygiène sanitaire. Mon enfant, il a 2 mois. Il faut qu'il boive, il faut qu'il se lave. Il faut éviter les microbes, il faut nettoyer, il faut manger, il faut faire la vaisselle, il faut faire la lessive aussi, et il faut flocher les putains de toilettes parce qu'on va pas se chier dessus. Alors comment on va fucking faire? Donc j'aimerais bien savoir quand est-ce qu'on va avoir de l'eau, de l'électricité, parce que ça sert à rien de payer des impôts et nous demander de payer des taxes pour les routes et de payer ci et de payer ça, et on n'arrive même pas à avoir les infos pour savoir quand est-ce qu'on va avoir de l'eau ou de l'électricité. Hein? Parce que là, j'ai plus d'eau, j'ai pas d'électricité. La bouffe, on est en train de s'entraider. Tu comprends ça? Donc maintenant, comment on va faire? Et on dit, les Saint-Martinois, c'est des sauvages parce qu'ils pillent. C'est, au bout d'un moment, tu comprends? C'est plus du vol, c'est de la survie.
Il se passe plus rien encore une fois ce matin, plus rien. On est avec des gens là, il y a un cyclone qui arrive dans quelques heures. Regardez, c'est l'état de l'aéroport. Il y a des gens, il aurait juste un sac plastique. Ils n'ont plus rien, ils n'ont plus rien à manger. Ils n'ont plus un toit pour ce soir. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas un pont aérien qui est fait entre la Guadeloupe, la Martinique? On réquisitionne aujourd'hui les compagnies aériennes qui nous taxent et qui nous bouffent notre pognon tout au long de l'année. pourquoi l'État ne réquisitionne pas tous les vols qui peuvent atterrir aujourd'hui sur Grand Case? C'est 45 minutes de vol avec des navettes aller-retour. Pourquoi vous ne faites pas ça? Qu'est-ce que vous avez peur de signer? Vous signez quoi? Notre arrêt de mort, vous avez peur de signer? Qu'est-ce que vous faites? Faites-nous un point aérien, il y a un cyclone qui arrive dans quelques heures. On peut sauver des vies humaines. Bougez votre cul, putain! Le préfet et Macron, monsieur Macron, si vous voulez. Parce que jusqu'à maintenant, je vous respectais, monsieur le président. Mais si ça continue, vous allez avoir une cote de popularité, mais alors, médiocre! Signez tout! Envoyez-nous des avions et faites évacuer les enfants. S'il vous plaît, les enfants, les femmes, tout le monde!
Mais quand est-ce? Arrêtez de nous faire passer des vidéos que les toits sont démolis, qu'il n'y a plus d'habitation, que tout le monde est à terre, tout le monde est à genoux. On le sait, mais venez nous aider. On veut partir de Saint-Martin. On ne peut pas rester ici. À Berriental, il y a des coups de feu toute la journée, toute la nuit. Ils tuent tout le monde. Les armureries, vous arrivez, vous ne savez même pas défendre l'armurerie de Saint-Martin. Il n'y en a qu'une. Vous êtes 150, il n'y a pas putain de deux flics qui sait se mettre devant. Mais c'est quoi? Mais qu'à quoi vous pensez? Qu'est-ce que tu fais, putain, Macron? Mais qu'est-ce que t'as dans le crâne, quoi? Mais qu'est-ce que tu veux? T'es super beau, hein. Y a rien à dire, hein. T'es beau costard, belle cravate, avec une belle femme. Tout va bien pour toi, hein. Et nous, on paye des impôts pour toi, hein. Faut pas croire qu'à Saint-Martin, il n'y a que des riches, hein. Nous, on paye. On paye tous des impôts. On te donne tout à l'État. On fait tout dans les règles. On a des sociétés. On paye tous nos charges sociales comme tout le monde. On paye tout. Aujourd'hui, on est à genoux. Venez nous chercher. On ne peut pas rester ici. On est tous envahis, même les Saint-Martinois. Comment ils vont-ils faire? Les gens qui sont d'ici, il faut les évacuer. Vous n'avez pas le droit. Vous allez aider des pays étrangers et pas nous. Nous, on est français. On fait partie de la France. Alors, bougez votre cul, remuez et arrêtez de passer à la télé des conneries. Il n'y a pas 10 morts, il y en a des milliers des morts. La Sandy Grande, on retire des morts tous les jours par la vague de 12 mètres. On voit des corps flotter à Saint-Martin. Alors bougez votre cul et venez nous aider au lieu de passer aux médias. Bye bye.
Excusez-moi, on a vu que des métropolitains. Le bateau arrive, il n'y a que des métropolitains. Façon de parler, excusez-moi du terme, que des blancs. Il n'y a que des blancs dans le bateau.
Le bateau en question, le voici. Il est près de 21h lorsqu'il accoste à Saint-François. À son bord, près de 100 rescapés, majoritairement de nationalité américaine. Eux sont sortis de l'enfer.
I'm sorry, they are leaving.
Là, nous sommes les 3 seuls Guadeloupéens à réussir à partir là, en fait, hein. Sinon, ce sont des personnes qui viennent d'un hôtel. On est les 3 seuls Guadeloupéens. Donc, quand je suis rentrée dans le bateau, ça m'a fait de la peine parce que j'ai vu qu'il y avait de la place et que j'ai laissé plein de collègues derrière.
Le constat est visuel pour une épreuve pourtant partagée. Comme si la survie des uns était plus importante que celle des autres.
Il y a des gens qui sont dénudés, qui n'ont rien du tout. Ils demandent à l'aide. Il y a des femmes, des mères sans logement, pardon, qui n'ont plus rien, qui n'ont pas de toit. Et on leur dit de se débrouiller. Il faut vraiment que la population s'active parce qu'ils ont besoin d'aide. Ils sont laissés pour compte.
Cette arrivée dans cette nuit à Saint-François a quelque chose d'extrêmement pathétique. Personne ne comprend comment ces personnes ont pu arriver ici. Le maire lui-même n'a pas eu d'informations en ce sens. On s'interroge encore.
J'ai été informé en consultant les réseaux sociaux qu'un bateau des Iradiens s'apprêtait à revenir avec une centaine de rapatriés. Je n'en sais pas tellement plus. J'ai alerté les services de l'État.
Alors, qui était vraiment au courant de cette traversée nocturne? On peut se poser la question. Le capitaine, lui, nous apporte une réponse formelle qui en dit long.
On a été réquisitionné par le préfet. Ils nous ont demandé les caractéristiques du navire, l'autonomie et tout ça aussi. Les autorités nous ont demandé de ramener ces gens-là sur le territoire européen. Donc, c'est ce qu'on a fait, on les a ramenés.
Les personnes ont déjà certaines réservations d'hôtels ici en Guadeloupe. Donc, apparemment, il y a déjà 40 personnes sur les 94 qui ont déjà leurs réservations.
Une arrivée donc programmée, organisée en amont, mais qui fait planer un malaise. Qu'en est-il des autres? De la population restée sur place, encore plongée dans l'enfer saint-martinois.
Alors qu'Irma poursuit sa route dans les Caraïbes avec des rafales qui ont parfois dépassé les 300 km/h, le cyclone de catégorie 5 a dévasté les Antilles. Les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, situées à environ 250 km de la Guadeloupe, ont été particulièrement dévastées. En métropole, la solidarité s'organise comme à Saint-Denis. La ville s'associe au collectif créé pour venir en aide aux victimes du cyclone Irma. Elle met à disposition la salle de la Bourse du Travail qui se trouve au 11 rue Génin à Saint-Denis pour lui permettre d'organiser la collecte dans les meilleures conditions possibles. Dans un communiqué, les délégations du Conseil représentatif des Français des Outre-mer en Seine-Saint-Denis, représentées par José Alté, appellent l'ensemble des compatriotes et plus singulièrement les ultramarins de l'Hexagone à la solidarité. Alors si vous avez envie de faire un geste ou apporter des dons, alors surtout des produits qui se conservent, mais aussi des affaires d'école, des cahiers, des trousses, parce qu'à un moment donné, ça sera aussi la rentrée. Alors pour vos gestes de solidarité, un contact, le 06 89 37 57 35, le 06 89 37 57 35. Il y a un mail aussi. ouraganirma@orange.fr ouraganirma@orange.fr.
Vous avez bien reconnu, c'est Monsieur Admiralty avec le titre « Désolé ». Allez, trop tard pour dire désolé, ça veut dire qu'il est trop tard pour dire désolé. On est toujours sur Radio Déclic 106.3. Et on poursuit avec le premier numéro de la rubrique high-tech. On parlait d'une application qui s'appelle Molotov TV.
Donc la rubrique high-tech de Senzo. Alors Senzo, c'est quoi un petit peu cette rubrique?
Alors cette rubrique va me permettre de vous parler des nouvelles applications indispensables disponibles sur les smartphones et tablettes ainsi que sur nos ordinateurs. Dans un premier temps, les applications gratuites et puis que j'aurai testées et dont je peux parler.
Donc les bons plans. Alors on commence ce soir avec quelle application ?
Alors on commence avec une application explosive qui s'appelle Molotov TV. Donc c'est une application gratuite, disponible sur iOS et Android, et aussi sur des téléviseurs connectés, ainsi que sur les Mac, PC. Et donc c'est une application de télévision qui offre 36 chaînes gratuites, dont 26 de la TNT, avec une possibilité de revenir sur le temps des programmes, donc TV en direct, TV différé. Admettons, on arrive en fin de programme, on peut revenir au début du programme sans avoir été connecté sur le programme auparavant. Donc je trouve ça assez génial.
Ça c'est intéressant parce que d'habitude en fait avec les box entre autres on peut revenir mais je crois c'est pas plus d'une minute en arrière.
Voilà, là on peut revenir. Fait. Là on peut revenir vraiment au début du programme, même à la pub avant le programme. Donc c'est vraiment bien foutu. Et puis c'est une application très stable avec des développeurs motivés qui veulent vraiment développer cette application pour la télé du futur 2.0. Donc les programmes qui sont diffusés sur les chaînes, c'est classé par catégorie. On a des catégories dessins animés, films, séries, mangas, magazines, en ce moment ou même ce soir. Et on a une grille de programmation sur 15 jours. Et donc c'est assez pas mal aussi. Et on peut suivre aussi les acteurs, les personnalités, les réalisateurs. On peut les suivre directement via cette application. Donc si ils sont diffusés, admettons, jeudi prochain à 20h, on reçoit une notification comme quoi notre acteur préféré est bientôt diffusé sur la chaîne et qui nous invite à regarder sur Molotov TV, bien sûr. Et puis, on a du replay. Donc... la promesse, c'est que c'est facile d'accès. Pour l'instant, bon, l'inconvénient, c'est que des fois, ça y est, des fois, ça y est pas. Donc, bon, à voir. On a aussi une possibilité de gérer la data via l'application. Donc, pour économiser de la data de notre forfait 4G et 3G. Donc, elle offre aussi cette possibilité. Donc, tout ça, c'est gratuit, je le rappelle, 0€. Mais on a aussi une possibilité d'extendre tout ça pour avoir plus de chaînes. Et ce qu'on appelle des bookmarks. Donc ce qu'ils appellent les bookmarks, c'est la possibilité d'enregistrer des programmes qu'on regarde ou même en différé. Donc tout ça pour 10€ par mois, sans engagement. C'est une application qui diffuse en HD, donc selon la vitesse de connexion de chacun. Et puis, avec le compte gratuit ou payant, on a droit à 4 écrans simultanés.
Donc voilà, donc si on n'a pas de télé, ben voilà, si on a un smartphone, alors plutôt une tablette ou un ordi, parce que c'est vrai que les smartphones, c'est un peu petit, mais en tout cas, tablette ou un ordinateur, ou pire, un smartphone, et ben on peut quand même regarder la télé gratuitement, on le rappelle, gratuitement, avec cette application. Donc on rappelle le nom de l'application.
Donc Molotov TV, avec une très très belle ergonomie. Donc elle est disponible sur Apple TV, comme sur Mac, iPhone, tablette, que ce soit Android ou iOS.
Eh bien merci Senzo, donc peut-être dans 15 jours une autre application ou un logiciel, parce qu'en fait le but aussi de cette nouvelle rubrique, c'est de parler d'high-tech quoi, finalement.
C'est ça, tout à fait, de faire découvrir aux gens aussi ce qu'ils peuvent avoir via les smartphones, via les tablettes. On peut aussi changer nos habitudes et avoir une productivité parfois améliorer ou plus simplifier grâce à des applications qu'on ne soupçonnerait même pas. Donc je suis là pour vous faire découvrir ça.
Voilà, et puis dans un premier temps, on va parler de tout ce qui est gratuit.
C'est ça.
Voilà, parce que c'est accessible à tout le monde et il n'y a pas de raison. Et donc, à bientôt.
À bientôt.
Et on retrouve CZ avec de nouvelles pépites.
Et oui, on va en Angleterre, donc, où en février dernier, des pompiers avaient sauvé 18 porcelets d'un incendie. 6 mois plus tard, ils les ont retrouvés sous une forme surprenante. Et oui, en tout, 18 porcelets et 2 cochons, élevés pour la consommation de viande, avaient été sauvés d'un incendie qui avait eu lieu dans une ferme le 21 février dernier. Donc les pompiers ont reçu des saucisses issues de ces fameux porcelets. Sur la page Facebook, les pompiers ont indiqué que les saucisses étaient non seulement fantastiques, mais également fortement recommandées. Donc Rachel River, la fermière à l'origine de cette offre, a déclaré « Je voulais remercier les pompiers. J'ai donc donné à ces animaux la meilleure qualité de vie possible avant de les conduire à l'abattoir. »
Oh là là. On enchaîne avec une deuxième pépite.
Eh oui. Alors le 19 août 2017, hein, donc de cette année, une femme de 56 ans est restée enfermée dans un centre médical.
Ah.
Oui. La porte du cabinet s'est refermée alors qu'elle, qu'elle avait toujours son appareil de pressothérapie sur les jambes. Donc il était environ 19h45 ce vendredi soir, lorsque Baïja s'est retrouvée toute seule au sein de ce centre de rééducation et d'ostéopathie à Boulogne-Billancourt. Elle n'a pas compris ce qui se passait, à vrai dire. Elle entendait des gens se dire au revoir, souhaiter un bon week-end, puis elle a attendu. Appeler s'il y avait quelqu'un, mais il n'y avait plus de bruit. Elle a enlevé l'appareil, elle s'est levée et a vu qu'elle était toute seule, enfermée.
Oh là là, la pauvre dame.
Donc elle téléphone alors à sa fille, qui prévient la police nationale. C'est finalement la police municipale qui est intervenue et la gardienne de l'immeuble qui a pu délivrer la patiente aux alentours de 20h10. Celle-ci souffrant d'une crise d'asthme causée par la panique, les pompiers ont préféré la conduire à l'hôpital pour y subir des examens et recevoir des soins. Le lendemain, donc, elle a forcément été déposée plainte au commissariat pour négligence. Et donc le professionnel qui exerce depuis 1996 à Boulogne-Billancourt se disait donc confus après l'incident de la veille. Je me suis excusé, j'ai pris des nouvelles. C'est la première fois que cela m'arrive en 20 ans. Heureusement, encore j'ai envie de te dire. D'habitude, je fais toujours le tour de mon cabinet, au moins pour vérifier les lumières. Mais j'étais vraiment persuadé qu'il n'y avait plus personne. Donc il admet avoir reçu un appel qui l'a un peu perturbé juste avant son départ. Cette fois, je n'ai pas vérifié et je suis parti. Donc le soin de Beija s'était terminé depuis 19h15. Je ne l'ai pas entendu. Elle ne m'a pas appelé quand son traitement s'est terminé. Alors, comme j'étais un peu ailleurs, j'ai fermé.
Bientôt, ça va être de sa faute, la pauvre Madame Baïdia.
C'est ça. Donc, il comprend donc que la famille de cette personne soit très remontée contre lui, même s'il relativise en disant « j'ai fermé mon cabinet, il y avait encore quelqu'un dedans. Ça ne doit pas être ni la première ni la dernière fois que cela se produit. Et ce n'était pas dans un ascenseur non plus. Hein. » Mais c'est fâcheux et ce n'est pas professionnel de ma part, c'est clair. Je ne peux que m'excuser.
Ah bah oui, un peu facile quand même. En tout cas, cette pauvre dame.
Puis en plus, non, mais c'est surtout qu'elle a eu une crise de panique. Donc
oui,
ça
c'est
aurait
ça.
Pu,
ça aurait pu être grave, oui, plus voilà, tout grave. En tout cas, elle est.
Tout va bien.
Tout va
aujourd'hui.
Bien.
Donc voilà. Une dernière.
Une dernière.
Oui, une dernière là pour cette session. Donc alors son opération du nez tourne mal. Il ressort avec.
Une érection permanente. Alors ça, voilà. Est-ce que le nez s'est relié ?
Je ne sais pas. J'explique tout de suite. Donc en Croatie, Neven Siganovic, excusez-moi la prononciation, 45 ans, hein, est une star. Donc c'est un styliste vedette de la télé-réalité, enfin voilà, locale. Hein. Donc il est aussi célèbre pour les nombreuses opérations de chirurgie esthétique qu'il a subies. D'ailleurs, quand on voit sa photo, on voit bien qu'il est refait de partout. On a l'impression que c'est Sheila mélangé à...
voilà. Au frère Bogdanov.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Sauf qu'il n'a pas le menton.
Voilà.
Donc voilà. La dernière en date s'est déroulée donc en Iran, dans le cadre d'un documentaire sur sa vie. Mais elle ne s'est pas déroulée comme prévu. Lors de sa troisième rhinoplastie, Neven a fait une réaction allergique à l'anesthésie.
D'accord.
Il est ressorti de l'opération avec un effet secondaire surprenant. Donc, une érection permanente, un trouble nommé priapisme. Donc, comme l'explique l'Association française d'urologie, il s'agit d'une maladie dont les conséquences sont potentiellement graves. Celle-ci nécessite une prise en charge urgente dont la séquence doit être bien définie afin d'éviter les retards de prise en charge, les complications et les dysfonctionnements érectibles irréversibles.
Waouh, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus jamais. Ça doit faire mal en plus, non ?
C'est-à-dire que, bon. Étant garçon.
Ça, je ne sais pas, mais c'est un garçon.
Oui, si c'est en continu, oui, au bout d'un moment, c'est déjà un, c'est gênant. Deux, ça, oui, parce que le sang,
c'est ça, oui.
Hein, que c'est du sang. Voilà, donc,
ça monte et puis ça voilà. S'évacue pas. Donc,
voilà, c'est ça. Et donc, c'est d'être un peu. Ça, oui, ça, je pense qu'au bout d'un moment, ça la ferme. Ça la ferme mal, oui. Ça veut dire. Donc, Neven a donc subi une intervention d'urgence, mais il devra attendre plusieurs mois avant d'être complètement guéri. En attendant, elle souffre. Ouais. Malgré son érection permanente, Neven n'a pas renoncé à son amour de la chirurgie. Il a récemment affirmé qu'il ne lui reste plus qu'une opération avant d'atteindre le physique idéal et la gloire mondiale.
Bon, mais ce pauvre Neven, il faut qu'il fasse attention. Hein, parce que...
Il est aussi un peu barré quand même.
Bah oui, soit c'est... Ouais, et puis surtout après un accident comme ça, enfin je veux dire, moi, il faut arrêter là. Parce que...
Non, mais surtout quand tu vois sa photo.
Oui, en tout cas, si vous êtes intéressé, voilà, sur les réseaux sociaux, on ne voit que lui.
Et tout de suite, sur Radio Déclic,
la chronique de Georges.
La chronique de Georges.
La chronique de Georges. C'est maintenant.
Alors, Georges, ce soir, on parle d'un grand homme.
Exactement. Mais avant de commencer à parler, bonsoir, monsieur Dain. Et aujourd'hui, on va parler d'un homme tout seul. Pratiquement, il a construit la France. Cet homme, malgré des siècles d'histoire, toujours il reste comme un phare. Il éclaire les chemins pour nous tous. Et cet homme, il est, lui, neuf. Louis IX, ma foi, il est né l'année 1214. Son père, c'est Louis VIII. Son grand-père, il est Philippe Auguste. Sa mère est Blanche de Castille. Son père, malheureusement, il est mort lorsque l'enfant était jeune. Évidemment, sa mère, Blanche de Castille, est devenue régente. Et dans cette époque, dans cette période, la France... Il y avait des troubles de tous côtés. Il y avait les seigneurs avec Henri III d'Angleterre, de Bretagne, c'est-à-dire les seigneurs de Bretagne avec Henri III d'Angleterre. Ils se battaient contre le roi de France. Il y avait une guerre de religion. C'est-à-dire les cathares, ils se révoltaient contre les catholiques. Et la mère, elle a pu, en tant que régente, les calmer un peu. Jusqu'à lorsqu'il est devenu Louis IX majeur, il a pris le nom de Louis IX, et lui, toute cette diversion qu'il y avait dans le pays, il a pu les maîtriser parce qu'avec les Anglais, il a fait un pacte de 5 ans, chacun reste à sa place. C'est-à-dire, on ne fait plus la guerre pendant 5 ans, vous tenez les territoires que vous avez acquis, et la France aussi, elle tient les territoires qu'il a actuellement. Et de l'autre côté du Qatar, aussi, il a laissé un peu de liberté pour se calmer. Mais malheureusement pour lui, il tombe malade. Il tombe gravement malade. Et lui, il a dit, oh Dieu, si tu vas me guérir, je vais faire la croisade. Parce qu'il était le siècle de croisade. Et évidemment, il a été guéri. Donc, il a tenu sa parole pour faire la première croisade de Louis IX. Il a construit le port de Aigues-Mortes et son armée l'a dirigé en place à la Terre Sainte et parti en Égypte.
Alors, on est dans les années, quoi, 1200 quelque chose ?
Et nous sommes dans l'année 1200, pratiquement 30-35. Donc, il est parti vers l'Égypte. La première ville qu'il est arrivé était Damiet. Il a pu la voir. Après Anna de rester dedans, il a dit, je vais attaquer la deuxième ville qui s'appelait Mansoura. Et malheureusement pour lui, à Mansoura, il a perdu la bataille. C'est pas seulement il a perdu la bataille, mais il est tombé prisonnier, lui, et avec tous les seigneurs qui étaient avec. Donc, pour les libérer, il a payé une forte rançon pour être libéré. Il est revenu en France, mais psychiquement, il était atteint. Il était atteint parce que, comme ça se passe, il a perdu et tout ça, c'est-à-dire son frère cadet, qui s'appelait Charles d'Anjou, lui, il venait d'une bataille victorieuse à Sicilia, de Sicile. Donc, il a dit, mon frère, pour le roi, tu ne vas pas rester... C'est un échec. On va faire deuxième croisade. Et bien, il a dit, d'accord, on va faire la deuxième croisade. Mais cette fois-ci, on va la diriger vers Tunis. Donc, lui et son armée, elle va à Tunis, capitale. Malheureusement, là-bas, il y a une épidémie. Moitié de ses soldats, et lui aussi, sont décédés là-bas à Tunis. Et l'année 1270. Mais sa mort en Tunis... Ici, en France et en Europe, il est devenu pour lui, c'est-à-dire un aura, parce que roi chrétien, roi qui est mort en croisade, c'est quelqu'un qui mérite le respect, et comme dit maintenant, subito santo. Les gens commencent à crier partout, tout de suite devenu ça. Et à vrai dire, 30 ans après, 1297, l'Église a déclaré ça. Mais son action pour la France, parce qu'il n'était pas seulement que la guerre, la croisade, son action premièrement, il a pu, grâce à ses capacités de négociation, il aimait beaucoup la France, il a dit tout le trouble qui était l'Angleterre, même le roi d'Angleterre est parti tout seul, il a laissé tout ce qu'il avait acquis. Les Qatars sont revenus à la France, et ce qu'il a fait de nouveauté, c'était la paix et la prospérité. Tous les Français de cette époque, comme on dit, ils mangeaient assez, ils sentaient en paix et tout. Et deuxièmement, ce qu'il a fait de bien aussi, il a fait un conseil de seigneur qui il peut lui orienter, proposer et demander s'il avait besoin. C'est-à-dire, leur conseil. Ainsi, n'était pas le roi absolu qu'il décidait de faire. Et en plus, ce qu'il a fait, il a construit la Sainte-Chapelle qui est toujours existante. Et il a, son règne, pratiquement, était le meilleur qu'il a parmi tous les rois de France. Celui qui, le Français, il sentait qu'il les aimait. Et à cause de ça, c'est-à-dire, sans lui, pour la France, jusqu'à maintenant, il est toujours un phare qui nous conduit. Et la France, elle ne peut pas être la France sans lui. Et j'espère, tous on prend comme un modèle, d'agir toujours positivement pour construire, comme il a fait lui, de construire la France. Merci beaucoup.
Merci Georges pour cette chronique. Alors je vais juste passer avant la parole à CZ, parce que je sais que ça le démange. Alors Louis IX pour toi, Louis IX, CZ.
Oui, du coup après ta chronique, Georges, on va être obligé de changer nos oreilles, parce que Louis IX...
Voilà, Louis IX, il est pas d'occasion, en tout cas, c'est pas un tocard, ce roi-là. Mehdi.
Petite précision, CZ, on dit Louis IX.
Voilà, ben, on aura appris quelque chose. Alors, c'est marrant, c'est vrai que ce roi, alors, en général, quand on parle roi, ben, tout de suite, ce qui vient à l'oreille des gens, c'est Louis XVI, etc. Parce que, bon, voilà, il a été guillotiné. Et c'est vrai que Louis IX, comme ça, on n'a pas trop l'habitude, en fait, de parler de lui, alors qu'il a beaucoup, beaucoup marqué.
Il a beaucoup marqué parce que le côté de sainteté,
oui,
elle cache tout son action. Ouais. Parce qu'en tant que saint, c'est-à-dire, à vrai dire, elle apporte plus jusqu'à maintenant des touristes. Parce que la France, elle est reconnue grâce à des gens comme ça. Il y a Louis IX, sans lui, Louis XIV, pratiquement c'est tout.
Ouais,
c'est parfois vrai. On va François Ier, parfois d'autres. Mais en tout cas, les deux, surtout sans lui, ça rate pour toujours. Parce que le seul roi en Europe et en France, il est considéré comme ça.
Oui, c'est elle ?
Oui, juste une petite précision. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 15 jours, je devais me renseigner par rapport à Louis XVI et la basilique de Saint-Denis.
C'est vrai.
Donc, je me suis renseigné et je me suis trompé.
À Marie-Antoinette.
Et Marie-Antoinette. Marie-Antoinette. Et Louis, donc, je me suis renseigné et donc, ce n'est pas bien sûr leur corps, mais c'est leur statut mortuaire.
Ah, qui est à la basilique. D'accord.
Voilà.
Alors, et la tête, elle est où ? Parce qu'ils ont été guillotinés, ceux-là. Donc, la tête, voilà. On fait un appel aux auditeurs, c'est pour trouver la tête de Marie-Antoinette. Dites-nous-le. Eh bien, on continue, on se retrouve tout de suite. On continue avec de nouvelles chroniques de CZ. On va parler d'amour, l'amour toujours.
Eh oui, comme chaque week-end, une petite fille vient rendre visite à son grand-père. Mais cette fois-ci, sa chambre est vide. Personne dans son lit, personne dans la salle de bain, au réfectoire, ni dans les parties communes. L'homme de 93 ans s'est envolé. Immédiatement, sa famille prévient les gendarmes. Le nonagénaire avait quitté la maison de retraite vêtu d'un jean, d'un gilet sans manches de couleur bleue et d'une casquette. Comme quoi, à 93 ans, on peut être coquet encore. Donc ces éléments vont permettre aux autorités de repérer, le grand-père. Bon, au-dessus de le récupérer en même temps. Donc en centre-ville, le pensionnaire en parfaite santé se baladait dans un parc, bras dessus, selon les gendarmes, avec sa petite amie.
Ben alors ?
visiblement, il avait trouvé meilleure compagnie que celle de sa petite fille.
Ah ben voilà. Bon, ben c'est pas parce qu'on a 93 ans que tout s'arrête. Hein.
Voilà,
on peut être amoureux. Donc c'est une jolie histoire, ça.
Ben oui,
c'est une jolie histoire.
Cette petite
qu'on l'a retrouvée, mais il était avec sa petite amie. Bien, donc, voilà.
C'était une bonne petite pépite.
Allez, on va en Allemagne, là.
Pas du tout.
Pas du tout.
C'est après qu'on va en Allemagne.
D'accord.
Là, on va à Clichy-sous-Bois, rien à voir.
Ah, bon. C'est pas si loin
voilà,
que ça.
Les policiers du commissariat de Clichy-sous-Bois, donc en Seine-Saint-Denis, ont eu une désagréable surprise début août. Une de leurs voitures de service, envoyée au garage central de la préfecture de police pour y subir des travaux d'entretien, leur est revenue avec une faute d'orthographe.
Ah.
À la place du mot « police », il y avait le mot poisse. Ils avaient oublié de mettre le L. qui a été floqué sur les portières latérales. Donc, le temps d'un week-end, les fonctionnaires ont été contraints de laisser le véhicule au commissariat avant qu'il ne reparte vers le garage. Pardon. Mais cette malheureuse erreur de flocage, qui n'a pas touché donc la carrosserie, heureusement encore, a été donc réparée et la voiture a pu regagner Clichy-sous-Bois.
Ah ben dis donc, c'est la poisse hein, pour la police, c'est le cas vraiment voilà, de le dire.
Voilà, et donc oui, donc maintenant on va en effet en Allemagne, où mi-août, une remorque a été volée. À l'intérieur se trouvaient 20 tonnes de chocolat. Mais quel chocolat ! Une remorque réfrigérée contenant 20 tonnes de pots de Nutella, d'œufs Kinder et d'autres confiseries Ferrero a été dérobée. La valeur de ce butin, riche en matières grasses, s'élève à un chiffre estimé entre 50 000 et 70 000 euros. Selon la police locale, les voleurs ont probablement dû effectuer ce vol à l'aide d'un camion, car la remorque était bien trop lourde pour être tractée par une simple voiture. Pour ça, il ne faut pas être policier, mais bon, moi, c'est écrit dans ma pépite. Les fonctionnaires ont lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver les malfrats. On ne connaît pas la motivation des voleurs. On ne sait pas pour l'instant s'ils voulaient s'emparer des friandises ou de la remorque. La police cherche aussi d'éventuels points de vente dans lesquels ces produits pourraient se retrouver. Quiconque se voyant proposer une grande quantité de chocolat par des moyens non conventionnels est prié de le signaler immédiatement à la police, a annoncé la police donc dans un communiqué. Selon eux, ce vol pourrait être lié à un autre délit, donc à 25 km d'où a eu lieu le vol. Une autre remorque, donc Nutella, a également été dérobée.
On ne peut pas citer la marque.
Voilà.
Mais Ferrero aussi, puisqu'il y a les Rochers Suchard et compagnie.
Voilà. Mais voilà, désolé. Une autre donc remorque a également été dérobée dans le même week-end, mais celle-ci était vide.
Ah. Alors, attention aux crises de foie, hein, pour ceux qui vont manger tous ces chocolats. Hein,
et attention au diabète. Hein.
Attention, ouais, c'est important. Donc voilà, ben, voilà c'est la fin des pépites.
Et puis du coup, je propose qu'on se quitte avec l'hymne de Nutella.
Enfin, alors, l'hymne de Nutella, on ne va pas aller jusque-là, mais en tout cas, voilà, la pub a pris ce morceau que vous allez tous reconnaître pour une de ses publicités. Mais c'est un morceau aussi qu'on aime bien parce que c'est les Jackson 5.
Tout à fait.
Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours. CZ, tu seras là avec de nouvelles pépites ?
Alors, des nouvelles pépites, ou peut-être on va tester une nouvelle chronique.
Ah,
on verra.
Mais voilà, en tout cas, soyez à l'écoute. Hein. Puis ben, on espère que Philo sera là. D'ailleurs, on lui fait un gros bisou, parce qu'il a des petits soucis de santé, mal au dos, etc. Donc on espère que ça ira mieux, puis qu'il puisse reprendre son vélo.
Parce qu'il a trop chanté cet été, c'est pour
voilà,
ça.
Voilà, c'est peut-être ça, pour venir nous voir. Voilà, il y aura Georges, Mehdi avec ses infos et puis peut-être des nouveaux. Enfin, en tout cas, on verra. Restez à l'écoute donc de FPP 106.3 pour la suite de l'émission. C'est l'envolée. À bientôt. Salut, bye bye. Et puis, voilà, spécial dédicace à Senzo, notre technicien, parce que voilà, c'est son départ. Donc, bon, peut-être qu'on le retrouvera de temps en temps dans l'émission. Mais en tout cas, c'est la fin pour lui. En tout cas, la fin de l'aventure. Et puis, on lui souhaite plein de nouvelles et beaux projets et belles aventures. Salut, bye bye!
Radio Déclic 106.3 tous les premiers, troisième, cinquième vendredis du mois.